pendant les campagnes électorales sur le terrain, ces questions-là sont très peu posées, en fait. Par contre, dans les débats télévisés, on peut rentrer dans le détail de chaque mesure que le sénateur voudra développer ou le député éventuellement, et notamment le domaine de la pauvreté, qui est effectivement l'un des points clés en relief par rapport à la croissance économique du pays qui dépasse les 6%.
Mais alors, si on ne s'intéresse pas directement à ce qui intéresse les Philippins, est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins motivés pour aller voter ou moins motivés pour avoir une opinion politique ?
Peu de participation aux élections précédentes dépasse les 70% et ils ne sont pas obligés de voter. Donc, les Philippins sont très motivés. Il y a toujours l'idée qu'éventuellement, un nouvel homme politique va pouvoir changer l'état des Philippines ou au moins l'état de leur communauté. En même temps, ils sont très cyniques. Ils savent très bien qu'il y a de très belles paroles qui sont dites pendant les élections, mais peu d'hommes politiques vont réellement changer leur vie. Il y a un très gros espoir sur l'administration Aquino, qui effectivement connaît une croissance économique très importante. Mais si on ajoute le taux de chômage et le taux de sous-emploi, on arrive à peu près à 30% de la population dans une situation de très grande précarité.
Vous avez dit que l'administration Aquino, donc j'imagine son parti, parti au pouvoir, il y a un très grand espoir sur lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de challenger ?
Il va y avoir deux grandes coalitions. La coalition du président Aquino, qui regroupe en fait 5 partis politiques, dont son propre parti politique, qui est le Parti libéral. Et en face de lui, la coalition du vice-président, Jomar Binay, qui lui, dès 2011, a bien prévenu en fait, qu'il avait l'intention de se présenter aux élections présidentielles en 2016. L'objectif, c'est en fait, de tester en fait, le terrain, de voir si sa popularité, car il a une très grande popularité, va pouvoir se transmettre dans des résultats électoraux en sa faveur et en la faveur de sa coalition.
Pourquoi est-ce qu'il est très populaire ?
À l'époque du président Marcos, il faisait partie des avocats qui défendaient les prisonniers politiques et il descendait dans la rue en fait, s'opposant à la dictature Marcos. Après, il était très proche de la famille Aquino. Il est devenu après, pendant une vingtaine d'années, le maire de Makati, qui est le centre des affaires de Manille. Il s'est très, très occupé de la population pauvre qui habite à Makati. Makati ayant attiré tous les centres d'affaires, tous les quartiers généraux des entreprises, les taxes sont très élevées et donc ils redistribuent ces taxes à la population qui vit dans les squatters à Makati et aux populations, aux seniors, ce qui permet en fait aux seniors ou aux populations défavorisées d'avoir beaucoup de services gratuits. Et donc la population qui vit à Makati et en difficulté considère M. Binay comme quasiment comme un héros, comme un Robin des Bois en fait.
L'Église, d'ailleurs comme les séparatistes musulmans, l'Église dit ne pas faire campagne. Quel peut être aujourd'hui le poids, disons l'influence que l'Église peut avoir sur ce scrutin ?
L'Église catholique effectivement est théoriquement neutre sur la campagne électorale. Mais en même temps, il y a eu une lettre pastorale qui a été lue. Dans cette lettre pastorale, la conférence des évêques indiquait bien à la population que la population devait choisir en fait des candidats qui avaient les mains propres, qui ne faisaient pas partie d'une dynastie politique et qui n'avaient pas voté en fait pour le planning familial. En même temps, il y a un groupe charismatique qui s'appelle le groupe El Shaddai, qui est reconnu par l'Église catholique, a proposé une liste d'hommes politiques pour lesquels ses membres devraient voter. L'Église catholique n'a pas démenti cette liste.